l'évangile de Jean 14. Nous lirons les 11 premiers versets, mais les versets 8 à 11 sont ceux qui retiennent notre attention aujourd'hui. C'est la nuit avant la mort de notre Sauveur. Dans cette chambre haute, il dit à ses disciples qui ont appris son départ, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. » Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment en saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Le verset 7 et suivant sont les versets qui nous intéressent le plus. Jésus dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment, dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. » Trois points d'introduction et puis trois points dans notre méditation ce matin. Nous sommes très différents, n'est-ce pas, en tant que chrétiens. Même ici, ce matin, ce soir-là, dans la chambre haute, il y avait Pierre, tellement rempli d'amour et d'ardeur, impétueux, mais trop sûr de lui, et il doit être averti par le Seigneur. Tu ne vas pas donner ta vie pour moi, tu vas me renier trois fois avant l'aube. Mais puis il y a Thomas. Thomas aussi, plein d'amour pour le Seigneur, mais plein de doutes et très craintif. Et il ne pense pas savoir le chemin. Il ne peut se créditer de rien. Même si le Seigneur lui donne une grâce, il n'est pas sûr de l'avoir. Ça, c'est Thomas. Et le Seigneur doit lui dire que non, vous en connaissez le chemin, je suis le chemin. Et puis, il y a Philippe. Il n'est ni impétueux comme Pierre, ni craintif et doutant comme Thomas. C'est quelqu'un qui veut voir les signes et les merveilles. « Seigneur, montre-nous le Père. » Il veut une théophanie. Il veut un coup de théâtre. Il veut quelque chose qu'il n'a pas vu jusqu'ici dans 3 ans avec le Fils de Dieu. Il pense à autre chose. Il veut voir comme Moïse a vu. Et Jésus doit le corriger. Mais ce qui est formidable, c'est que au milieu de l'impétueux, du craintif et de, comment dire, de celui qui cherche ses signes, Jésus prend tout cela, il les prend et il répond à chacun. Et il recadre en les dirigeant chacun vers lui-même. Et il prend leurs différences, il prend leurs problèmes et il utilise ça pour avancer tous, pour les préparer tous pour son départ. C'est vraiment formidable pour nous de savoir que nos problèmes ne sont pas un problème pour Jésus. C'est une chose qu'il prend afin de nous former, nous changer, nous préparer et toucher d'autres aussi. Il est tellement suffisant ce soir-là pour tout ce qu'on lui jette comme doute, comme suffisance. C'est incroyable. Et il est comme ça avec vous tous les jours. Deuxième point d'introduction. Nous voulons arriver à une condition spirituelle dans notre vie chrétienne, chacun de nous. Nous le voulons et nous pouvons. Où les crises les plus bouleversantes ne peuvent pas complètement nous ébranler. Ça, c'est la maturité spirituelle qui plaît au Seigneur. Et le Seigneur est en train de préparer ses disciples pour cette sorte de solidité, et vous aussi, par ce passage. Le premier ancre qui nous garde en place, c'est cette assurance de notre destination ultime. Il dit, il y a beaucoup de chambres dans la maison du Père. Je vais vous y préparer une place. Et là, ça nous aide beaucoup, n'est-ce pas? Dans tous nos problèmes ici, nous comprenons mieux parce que nous ne sommes pas arrivés encore. Ce n'est pas la maison du Père ici. On peut attendre parce que nous savons que nous y arrivons là. C'est notre boussole est pointée vers cette éternité dans la présence du Père. Mais deuxièmement, le deuxième ancre de notre foi, c'est cette assurance non seulement de notre destination, mais du fait que nous connaissons le chemin, que nous avons le chemin pour arriver sans aucun doute, que Christ lui-même est le chemin, que l'ayant, nous avons le chemin. Mais troisièmement, et aujourd'hui, le troisième ancre de la d'une solidité, c'est cette assurance que nous avons déjà commencé à connaître le Père ici-bas. Et ici-bas, nous sommes de plus en plus au clair par le Père lui-même qui se révèle à nous en Jésus-Christ de qui il est pour nous en tant que Dieu paternel. Donc, c'est cette assurance que, en se révélant à nous, Jésus n'a pas simplement révélé le Fils de Dieu, il nous a révélé le Père, notre Père. Donc, le thème de ce que nous voulons voir aujourd'hui dans ces paroles du Seigneur, c'est que notre connaissance de Jésus-Christ, chers amis, est censée nous amener à une connaissance et une confiance reposée et sûre du Père. Et si connaître Jésus ne vous amène pas à connaître intimement le Père, votre connaissance de Jésus est déficiente. Ça m'amène au dernier point de l'introduction. Il y a une déficience dévastatrice dans l'Église évangélique en Occident et en France. Et c'est que dans bien des endroits, pas partout, mais dans bien des endroits, les chrétiens évangéliques n'ont virtuellement aucune relation avec Dieu le Père. C'est presque une secte. Je vous montre comment vous pouvez le détecter. Vous venez dans la réunion de prière, les chrétiens évangéliques baissent la tête, et l'un après l'autre, ils commencent leur prière comme ceci. Seigneur Jésus, et ils ne prient jamais, jamais au Père. Si quelqu'un d'un autre siècle devait venir, un chrétien, et entendre, il aurait dit, il ne croit pas dans la Trinité. C'est quelle secte? Ils ne savent pas qu'il y a un Père. Or, dans le Nouveau Testament, pratiquement toutes les prières sont adressées au Père. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme ta porte et viens dans le lieu secret où est le Père. Et le Père qui voit en secret te le rendra. Et quand tu pries, prie comme ceci: Notre Père. Ou bien, quand Paul prie en Éphésiens 1, il prie au Dieu et je prie au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance. Et plus tard, il prie une deuxième fois dans le chapitre 3 et il dit, je fléchis les genoux, je vous lis, devant le Père. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom afin qu'il vous donne. Paul est toujours en train de prier le Père. Il n'est pas interdit de prier le Fils. On voit quelquefois, on va voir la semaine prochaine, il n'est pas interdit de prier le Saint-Esprit, même si on a du mal à trouver un verset biblique, un exemple. Je pourrais tenter de vous montrer qu'on s'adresse quand même au Saint-Esprit. Sans doute. Mais dans nos prières ordinaires, nous prions le Père parce que nous connaissons le Père. Parce que dans la vie chrétienne correctement vécue, on se sent très proche du Père. Pas simplement très proche du Jésus, et puis il y a l'autre qui est distant, n'est-ce pas? Et comme on ne se sent pas très proche de lui, on a affaire plutôt avec Jésus. Non, le chrétien dans sa maturité se sent une proximité délicieuse et douce avec le Père, comme un Père révélé, pas un Père caché. Permettez-moi de vous lire une petite citation du plus grand théologien, je crois, du XVIIe siècle. Il s'appelait John Owen, c'était un Anglais. Ses 16 volumes et plus d'œuvres sont republiés et lus aujourd'hui partout dans le monde. 16 gros volumes comme ça. Et il dit ceci, c'est une traduction un peu bancale avec l'aide de Google Translation, excusez-moi. Mais voilà ce qu'il dit. Les chrétiens marchent souvent avec des cœurs extrêmement troublés concernant les pensées du Père à leur égard. Ils sont bien persuadés du Seigneur Jésus-Christ et de sa bienveillance. La difficulté réside dans leur acceptation par le Père. Quel est son cœur envers eux? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Il cite notre passage. Maintenant, de tels doutes, donc vis-à-vis du Père, devraient être si loin. Au contraire, l'amour du Père devrait être considéré comme la source d'où viennent tous les autres bienfaits et toutes les autres tendresses de l'Évangile. Jusqu'à ce que l'amour du Père soit cru et reçu, nous n'avons pas de communion intime avec lui. Et il continue pour dire, si les croyants s'exerçaient sur ce point, ils trouveraient dans leur marche avec Dieu une grande amélioration spirituelle. Et donc je lis le dernier paragraphe. Chez les chrétiens, il y a beaucoup de pensées sombres et dérangeantes autour de cette question du Père et son attitude envers nous. Peu de gens s'élèvent dans leur cœur et leur esprit à cette hauteur par la foi afin de reposer leur âme dans l'amour du Père. Ils vivent en dessous, dans la région troublée des espoirs et des peurs, des tempêtes et des nuages, mais tout ici, dans cette assurance du Père, est serein et tranquille. Mais comment arriver à ce stade? Ils ne savent pas. Mais telle est la volonté du Père, c'est que nous le voyons toujours tel qu'il est envers nous, bienveillant, plein de sympathie et d'affection pour nous, nous aimant d'une manière immuable, et cela comme un Père, en tant que grande source de toutes les communications du salut. C'est ce que Christ est venu révéler, Dieu en tant que Père aimant. Et en ce faisant, il nous donne le repos qu'il promet, car l'amour du Père est le seul repos de l'âme. Ok, avec cette longue introduction, nous pouvons commencer, mais les points que nous aurons à considérer seront pas longs. La première chose que nous voulons considérer dans les paroles du Seigneur, c'est que nous pouvons connaître, vous pouvez connaître Jésus véritablement, mais d'une manière déficiente. Ça peut arriver aujourd'hui comme au jour de Philippe. Nous lisons dans le verset 8, s'il vous plaît. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Il y a quelque chose de bien là-dedans, n'est-ce pas? Dans les paroles de Philippe. Vous ne trouvez pas? Cette soif! Je ne veux pas autre chose, je veux la connaissance du Père. Là, il a raison. Mais il y a quelque chose de reprochable, selon Jésus, dans cette expression de Philippe. Je crois même que vous voyez dans le verset 9 que Jésus est attristé par Philippe. Regardez. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Quel est le reproche de Jésus vis-à-vis de Philippe? Parce que reproche, il y a. Philippe a une connaissance de Jésus qui est déficiente. Vous l'avez entendu? Il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne m'as pas connu. Jésus ne veut pas dire que Philippe n'est pas chrétien ou qu'il ne le connaît pas du tout. Plus loin dans cette soirée, il va dire à son père que tous ses 11, il les a gardés en son nom et qu'ils ont gardé sa parole. Philippe connaît le Christ en tant que sauveur et Seigneur. Mais il le connaît mal. Et Jésus dit, il y a si longtemps que tu as été avec moi et tu m'as pas connu dans le sens où tu aurais dû. C'est ça le sens des dires de Jésus. Donc vous pouvez avoir une connaissance de Jésus, mais le point principal que Philippe aurait dû capter en connaissant Jésus, il n'a pas du tout capté. Il est passé à côté de la chose principale. Deuxième point sur les quatre. Une connaissance pleine de Jésus qui lui plaît parfaitement, c'est quand en le connaissant, tu réalises qu'en Jésus, tu es en train de voir et apprendre exactement ce qu'est le Père. Une bonne connaissance de Jésus, c'est qu'en le connaissant, tu réalises que c'est le Père qui est en train de se révéler à toi dans le Fils. C'est là où Philippe a raté. Il connaissait Jésus, mais il ne réalisait pas que il était en train d'être témoin oculaire d'une révélation explicite du Père dans la personne du Fils. Écoutez ceci, Au début de cet évangile, Jean a dit ceci: Personne n'a jamais vu Dieu. Seigneur, montre-nous le Père. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Deuxième passage. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Attention, la phrase ne finit pas là. Nous avons contemplé sa gloire, gloire du Fils, mais la phrase dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. C'est-à-dire que en contemplant sa gloire, tel Fils, tel Père, tel Fils, nous étions en train de voir la gloire du Père. Philippe pensait qu'il allait connaître le Père mieux. Pas autre chose que Jésus, pas autre chose que la personne de Jésus et ce qu'il voyait dans la personne de Jésus. Donc il dit à Jésus, bah, tu as passé, on t'a vu, on t'a vu, mais montre-nous le Père. Par quoi? Par quoi? Je viens de passer 3 ans à faire justement cela, de la manière la plus parfaite possible sur la terre. Parce que vous savez que, chers amis, le problème avec une théophonie, c'est-à-dire un spectacle son et lumière, okay, où tu vois la gloire de Dieu, c'est-à-dire une manifestation physique de lumière ou machin ou quelque chose, c'est que ça ne vous révèle pas, ça vous révèle peut-être la puissance, mais ça ne vous révèle pas la personne. Et Dieu le Père est une personne aimante. Comment est-ce qu'on va voir ça si ce n'est pas dans une personne? Donc, dans cette descente de Jésus, dans son humiliation même, dans le contraire du son et lumière que nous avons en lui humilié, nous voyons la gloire du Père qui est un Père qui s'abaisse, qui s'approche, qui nous prend dans ses bras, qui touche le lèpre, qui ressuscite le fils mort de la veuve, qui dit, donne-leur à manger, je veux pas qu'ils partent d'ici, je leur donne moi-même à manger. Et 5 000 personnes mangent de sa main. Et jour après jour, en Christ, nous voyons une compassion, une pitié, une affection. Il pleure sur Jérusalem et nous voyons le cœur du Père qui se révèle dans le cœur du Fils. Donc nous pouvons dire pour nous-mêmes, vous et moi, que nous ne connaissons Jésus bien que dans la mesure où nous sommes en train de le connaître comme la parfaite, le parfait dévoilement du Père. Verset 9. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Je me demande, est-ce que c'est peut-être la plus merveilleuse déclaration du Seigneur Jésus? Celui qui m'a vu a vu le Père. En tout cas, ça doit figurer dans les 10 plus grandes choses qui sont sorties de la bouche du Seigneur. Imaginez-vous à table, vous êtes 12, 11 disciples et Jésus, et vous avez un homme qui dit en face de vous, juste comme ça, celui qui m'a vu est quelqu'un qui a vu le Père. Ça veut dire que voir le Père n'est pas quelque chose de différent que voir Jésus. Et quand tu as vu Jésus, tu as vu tout ce qui est le Père. La rencontre avec Jésus résout complètement la question pour toi, qui est Dieu? Et il n'y a aucune autre source de révélation qui puisse venir compléter ou améliorer ce que vous pouvez connaître de votre Créateur par le Fils de Dieu. Quelle incroyable croissance Jésus leur fait un bond de croissance en leur disant ces choses. Parce que ils connaissent Jésus, mais ils ne réalisent pas, nous connaissons le Père. Et subitement, ils arrivent à savoir, oh là, nous sommes des gens qui ont vu le Père. Nous sommes des gens qui connaissent, qui peuvent avoir une certitude. J'ai accès au Père, je sais qui il est, j'ai communié avec le Père, j'ai vu qui est le Père. Et là, il est fait avancer incroyablement de là où ils étaient avant cette soirée-là. Il les réconforte et les fortifie. Il anéantit cette distance entre eux et le Père. Et nous allons voir pourquoi. Et comment? Troisième point. Et le quatrième, c'est juste une petite application. Ok, maintenant, nous avons la partie un peu théologique et un peu profonde. Mais les paroles de Jésus nous amènent dans cette profondeur et nous le suivons. La raison pour laquelle Jésus est la parfaite révélation du Père, c'est en raison de leur union. Père et Fils, et leur cohérence, c'est un mot, le fait que les deux cohèrent ensemble, demeurent l'un dans l'autre depuis toujours et pour toujours. Maintenant, remarquez ce que Jésus dit que Philippe doit maintenant comprendre et croire afin d'être sûr que Jésus est la révélation du Père. Regardez le verset 10. Il pose une question à Philippe, c'est intéressant. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Si tu avais compris ça, tu aurais su que celui qui me voit, voit le Père. Ne crois-tu pas, et je vous pose la question, ne crois-tu pas que Jésus est dans le Père et que le Père et dans le Fils. Les paroles que je vous dis, je ne les dis de moi-même, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père et le Père en moi. Maintenant, il faut que nous sachions, chers amis, que Jésus parle souvent de cette demeure mutuelle du Père et de lui, chacun dans l'autre. Et on pourrait aussi ajouter le Saint-Esprit, mais ce n'est pas notre sujet. Mais la Bible nous dit que les trois personnes de la Trinité demeurent l'une dans l'autre depuis toujours. OK? Ça veut dire qu'il y a dans la divinité, il y a une seule essence, mais il y a trois personnes. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Il faut aller plus loin pour dire que ces trois personnes ne sont pas là comme trois personnes dans une salle, qui peuvent être tous là, sans relation. Jésus est en train de dire que les trois personnes de la Trinité sont de manière innée dans une relation dynamique, aimante, vitale. Qui constituent même ce qu'elles sont en tant que personnes. Alors, je vais peiner un peu pour essayer d'expliquer ça, mais je vais dire la chose la plus facile d'abord. Philippe doit comprendre, et vous aussi, que quand on voit Jésus, on voit le Père pour une raison simple, une raison compliquée. La raison simple, c'est que le Père et le Fils ont le même être. Il y a un seul être de Dieu, une seule substance divine, si vous voulez. Et Le Père est propriétaire de tout cet être divin, mais le Fils est propriétaire de tout cet être. Ils n'ont pas divisé entre eux. Et quand vous voyez le Fils, vous voyez l'être du Père tout entièrement, mais vous le voyez dans le Fils. C'est très difficile à comprendre, mais quand le Fils vient, il ne peut pas venir sans l'être du Père, sans il y a une seule pensée divine, pas deux. Un seul cœur divin, une seule sagesse divine, un seul être divin. Et c'est le même du Père et du Fils. Et lorsque le Père agit, il a agi exactement comme le Père, le Fils agit, il agit exactement comme le Père aurait agi si le Père s'était incarné. Vous n'auriez pas vu la différence. Le Père ne peut pas s'incarner, c'est impossible, à cause de ce que c'est qu'être Père. Maintenant, vous avez dit, ça c'est la partie simple. La partie compliquée, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Donc, dans la Trinité, il y a ces relations. La Trinité est faite non pas de trois personnes, et puis une quatrième chose qu'on appelle l'essence divine, que les trois possèdent, mais cette divinité est l'essence divine en relation. Père, Fils et Saint-Esprit mutuellement demeurant l'un dans l'autre d'une manière ineffable depuis toujours, de sorte que le Fils ne peut jamais, écoutez bien, ne peut jamais être le Fils seul ou faire croire que ce soit seul. Il n'est simplement pas possible. Parce que dans sa constitution en tant que Fils, il est Fils en relation avec le Père. En relation dynamique et aimante. Il vit par le Père et le Saint-Esprit. Nous pouvons le comprendre un tout petit peu parce que nous, on doit vivre par Christ en nous. D'accord? Et Christ doit prendre la place de plus en plus. Mais il y a une union, et c'est la Bible elle-même qui nous pousse à comparer les deux. Parce que Jésus va dire. Vous allez connaître bientôt que le Père est en moi et moi dans le Père et vous en moi. Donc il connecte notre union avec Christ avec celle de la Trinité. Même s'il y a une différence très grande, il y a une ressemblance importante. Donc je vous disais que le Fils ne peut simplement pas faire croire que ce soit seul ou être ce qu'il est seul. Parce que, par définition, il est fils en union avec le Père. Et c'est pour cela qu'il dit, est-ce que tu ne crois pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? C'est-à-dire, je ne peux jamais rien faire sauf ce que le Père fait en moi. Quand j'agis, c'est toujours en relation, c'est toujours complètement en communion avec la pensée, le cœur, la volonté du Père. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de décalage, une petite distance entre moi et le Père. On ne peut pas en trouver, c'est impossible. Que le Père doit me dire, ah, je veux ça, mais je suis là-bas et je considère. Non, il y a une union tellement forte et relationnelle que je suis. La seule manière de le dire, c'est de vous dire que je suis dans le Père et le Père est en moi. Tout cela, les théologiens appelaient la parikoresis, et c'est un mot ils ont tourné autour depuis Athanase, plus ou moins, en essayant de comprendre ce mystère merveilleux. De la Trinité. Mais Jésus dit, les paroles que je vous dis, je ne dis pas de moi-même, comme si je pouvais faire croire que ce soit de moi-même seul. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je vis avec ma femme dans une sorte d'union et de relation. Et plus nous sommes proches, plus je ne fais rien sans elle, sans savoir ce qu'elle voudrait, sans. Mais si jamais un homme et une femme qui s'aiment se distancent, ou même si un des partenaires meurt, l'autre reste. Parce que mon identité ou celle de ma femme ne dépend pas de cette relation. Vous comprenez? Je peux exister et faire sans cette relation. Je serais triste de la perdre, mais ce n'est pas comme ça dans la Trinité. Le Fils ne peut même pas être Fils ou même pas être divin, sauf en relation avec le Père et le Saint-Esprit, parce que être divin, c'est être dans cette richesse de relations divines dans la Trinité. Nous allons donc arrêter notre partie difficile là et essayer d'appliquer ce que nous avons appris. Philippe, comme nous sans doute, a connu le Seigneur Jésus de manière déficiente. Il fallait plus de foi pour croire qu'il était en train de voir le Père. Et pour nous aussi, n'est-ce pas? Il faut que nous montions un peu dans notre foi et que nous comprenions que ce que nous avons vu en connaissant Christ à travers l'Évangile, c'est le Fils, mais aussi le Père. Il faut que dans notre vie, que cette proximité avec le Père s'installe, que nous sachions que c'est parce que Dieu, le Père, a tellement aimé le monde qu'il a envoyé le Fils. Ce n'est pas l'amour du Fils qui est la source de ton salut. C'est l'amour du Père qui est la source de tout, toute tendresse dont tu feras jamais l'objet. Même si le ruisseau, si toute l'eau qui me vient dans la bouche vient du ruisseau, qui est Christ, la source du ruisseau est le Père. Et le Fils ne fait aucun acte d'amour, ne montre aucune affection, ne fait rien pour vous aimer, vous sauver, sauf que ce soit quelque chose que le Père l'envoie pour faire et fait en lui envers vous. C'est merveilleux, ça. Quatre applications, je vais que les citer. D'abord, je pense que nous devons demander au Père de confirmer notre foi, que Jésus est venu non pas simplement pour nous montrer qui il est, mais dans le cœur de Jésus, lui, il voulait nous montrer qui le Père était. Et nous devons croire, parce que Jésus dit, si vous me connaissiez, comme il aurait fallu, vous connaîtriez aussi mon Père. Écoutez bien, mais maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est ça que le Seigneur veut. Maintenant, nous devons arriver à ce stade. Deuxièmement, nous ne devons pas négliger le Père dans nos prières. Et nous ne le ferons plus si nous croyons que le Père est tel que Jésus qu'il n'y a pas de différence, qu'il est dans le Fils. Nous allons voir que de plus en plus notre relation avec le Père devient distincte de notre relation avec le Fils, mais aussi tendre et intime. Et ça, c'est un grand pas en avant pour nous. Et la dernière chose, ne déshonorons pas le Père en permettant qu'il y ait une image quelconque dans notre tête du Père qui soit différent de Jésus-Christ. Quand nous rattrapons en train de penser au Père comme s'il était un peu plus distant ou différent que le Fils, nous détruisons l'Évangile. Nous attristons le cœur du Sauveur qui nous dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Que nous puissions donc croire cette foi catholique et universelle de la Trinité. Nous allons chanter. Nous allons chanter ce chant Majesté, le 82 dans le